I'm just trying to show life and like real moments.
J'essaie de dépeindre la vie.
In life.
Et des moments authentiques de la vie.
Consequences for your actions.
Et il traite des conséquences de nos actes.
I think all of my films have a fairly simple moral center.
Et mes films ont un centre de gravité moral assez clair, je pense.
And that is in life. There are consequences for all our
dans
actions.
La vie, il y a toujours des conséquences à ce que l'on fait.
That's life.
C'est la vie, c'est comme ça.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Larry Clark, cinéaste moral et anthropologue sulfureux des rebelles sans cause, avec Adrienne Boutan, Fernando Ganzo et Axel Cadieux. À toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un été avec les francs-tireurs du cinéma et bienvenue dans le monde de Larry Clark, cinéaste sulfureux et controversé s'il en est. On l'a accusé de tout, de vampiriser la jeunesse et d'entretenir avec elle un rapport pour le moins ambigu, d'être un voyeur, un pervers, un vieux provocateur nihiliste, roublard et racoleur, voire un pédopornographe. De la déflagration Kids en 1995 à Marfa Girl 2, toujours inédit en salle en France. En passant par Another Day in Paradise, Bully Ken Park et What's Up Rockers, son œuvre, riche de 9 longs métrages, est dérangeante, c'est certain. Et pas seulement parce que, tout en prolongeant à sa manière ce sous-genre typiquement américain qu'est le film de délinquance juvénile, il a su inventer un point de vue inédit sur les adolescents et leur vie, leurs désirs et leur violence. Une nouvelle manière de filmer la jeunesse, son corps et sa sexualité. Pas seulement parce qu'il s'est aventuré en montrant ce qui n'était jusqu'alors ni représenté ni même représentable, à transgresser les limites de la figuration licite, voire simplement admise, des corps et donc du voyeurisme, explicite Larry Clark, oui, obscène parfois, pornographique, non, vulgaire, certainement pas, car en grand chroniqueur de la sous-culture, en mettant à l'écran des jeunes gens qu'on ne voyait pas au cinéma, en jetant sur eux un regard aussi cru que tendre et empathique, en refusant le kitsch, le cynisme et l'ironie, pour filmer ces personnages à un premier degré qui frise certes parfois la naïveté et l'aveuglement, entre excès et maladresse, amateurisme et avant-garde, Larry Clark s'est révélé, pour qui veut bien regarder ses films, un grand cinéaste, moral, paradoxalement, pour qui toute action a des conséquences, et c'est tout cela, peut-être, qui est le plus dérangeant. Honoré en 2018 d'une rétrospective intégrale aux journées cinématographiques dionysiennes, Plan large sur Larry Clark, avec Adrienne Boutan, maître de conférences en cinéma et littérature anglophone, à l'Université de Franche-Comté, et spécialiste du teen movie, et Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire SoFilm. En fin d'émission, Axel Cadieux nous parlera du tout aussi sulfureux Showgirl de Paul Verhoeven, édité en DVD Blu-ray, dans une magnifique copie restaurée, mais pour l'heure, plongée dans les rues ensoleillées de l'été new-yorkais.
I knew you fucked it, man. I sat here for like 2 hours and shit. Like, yo, I was 12. You hit that shit up.
Man, who am I? I'm a motherfucking burger.
Yo, how was that shit, yo?
Oh my god, so good, dude. That girl can fuck.
Word, she can fuck, yo.
How's it halfway through? Oh, I'm thinking about it. This girl's no virgin. No virgin can fuck like this.
Mm, you sure she's a virgin, though?
Yo, that bitch is bleeding, dude. When I first put it in, you know?
Yeah.
She all screamed all loud, and then, like, so I think I saw her bite down her pillow, but I don't know.
How long did it take, dude?
Did what take? How long you fuck her for, man? Oh, man. Well, no, it took me, like, 15 minutes to talk her into it and everything. So it took a little longer than I expected, you know, but, man, once it was on, you would fuck for like a good half an hour, dude. I had to keep taking it out and putting it back in. She got it. Hurts the first time. I didn't want to come too quick, neither.
How did she smell? Did it stink?
Take a whiff.
C'est la deuxième scène de Kids de Larry Clark, son premier film en 1995. Le jeune Telly parle à son copain Casper en marchant dans les rues de New York. Il se vante de cette jeune fille dont il vient de prendre la virginité. Alors bonjour Adrienne Boutin.
Bonjour.
Je vous ai présenté comme une spécialiste du teen movie. En fait, vous n'êtes pas du tout adaptée pour parler de Larry Clark, parce que Larry Clark, il y a certes beaucoup d'adolescents dans ses films, mais enfin, ce sont tous des anti-teen movie. Ce sont des films sans romance, sans naïveté, rien de graveleux ni de scatologique, pas de retour à l'ordre à la fin. C'est l'anti-modèle.
C'est l'anti-modèle et en même temps, il travaille beaucoup avec des thèmes qui sont les thèmes du teen movie, précisément la défloration, le passage à l'acte. C'est des thèmes qui sont intéressants parce qu'ils sont traités encore et encore par le cinéma grand public. C'est même l'obsession des teen movie au-dessous de la ceinture.
Oui, vous en avez fait des conférences et des colloques, hein, j'en cite quelques-uns, okay. Du passage à l'acte au dérapage, la norme sexuelle en question dans les scènes de première fois adolescente, ou encore premiers émois et passage à l'acte dans les teen movies. Hein.
Tout à fait. C'est vrai que Larry Clark reprend ce modèle-là et le rend absolument inacceptable. C'est ça qui est intéressant. La scène qu'on vient d'entendre, le personnage se vante pas seulement d'avoir défloré une fille, il se présente dans le film comme le déflorateur en chef. C'est son objectif. Et évidemment, la grande violence de ce film, c'est d'une part qu'on va la voir, cette défloration, dans une scène qui est d'une violence visuelle intense. Et puis, on en entend beaucoup parler aussi dans des termes qui sont très crus. On dit toujours que Larry Clark, c'est un cinéaste du tout visible, mais c'est aussi beaucoup un cinéaste de l'obscénité verbale. C'est incroyable ce qu'on parle de sexe de manière peut-être encore plus violente et dérangeante finalement que ces gros plans qu'on connaît aussi très bien sur les sexes des très trop jeunes acteurs.
Alors, il faut préciser que Larry Clark n'est plus un jeune homme, hein, et depuis longtemps, quand il tourne ce premier film, il a 50 ans bien passé. C'est avant tout un photographe, photographe de talent. D'ailleurs, on parlait de Johan van der Kuyken qui avait commencé et qui est resté photographe lui aussi toute sa vie, qui lui aussi avait sorti un premier album de photographie très jeune sur la jeunesse de son pays. Larry Clark, lui, photographie ses copains, les gens avec qui il vit, avec qui il couche, avec qui il se drogue. C'est Tulsa qui aura un retentissement énorme, hein, qui influencera aussi bien Anne Golding que Gus Van Sant, Martin Scorsese. Est-ce que c'est en photographe qu'il arrive au cinéma? Ou est-ce qu'il était déjà cinéaste dans sa tête quand il faisait des photographies?
Je dirais que avant d'être photographe et avant d'être cinéaste, c'est un infiltré, Larry Clark. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui, depuis le début de ses premières photographies, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Et en même temps, au départ, il a pas vraiment filmé ses copains. Il est devenu copain avec les gens qui photographiaient. Et c'est son grand talent, c'est d'arriver à infiltrer de l'intérieur des milieux qui sont absolument fermés et qui sont des milieux non seulement fermés, mais en plus possiblement choquant parce que obscène, ses premières photos, effectivement, c'est des drogués, c'est des junkies, c'est ce qu'on voit pas. Et il les filme de près. Vous avez parlé de Nan Golding. Je pense qu'il est très proche, bien sûr, de cette idée de l'obscénité, de l'intimité en permanence. Donc je pense que c'est bien sûr un photographe et un artiste visuel, d'ailleurs plus qu'un scénariste. C'est peut-être d'ailleurs les limites des films qu'il a réalisés et écrits. Je pense que c'est quelqu'un qui, quand même, c'est bien quand il y a un scénariste derrière lui. Il y en avait un pour Kids. Évidemment, il y avait Harmony Korine, c'était très important. Donc c'est un photographe, mais c'est quelqu'un qui va chercher violemment l'intimité d'autrui et qui arrive de manière spectaculaire à s'y infiltrer.
Et il commence toujours ses films de manière spectaculaire. Le premier plan de Kids, c'est un baiser à pleine bouche, en gros plan, qui dure très longtemps. Et là aussi, ça influencera un certain nombre de cinéastes après. Et là où je dis qu'on n'est pas dans le teen movie, c'est que généralement, quand il y a un baiser en gros plan dans le teen movie, il va y avoir des appareils qui se coincent les uns dans les autres. On va s'en sortir par une blague. Il n'y a pas de blague chez Larry Clark. On est directement dans l'action et dans la chair. Et il commencera très souvent ces films comme ça.
Oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que vous dites qu'il a influencé, mais il est influencé. Il faut rappeler quand même que le premier débat autour de la censure aux États-Unis s'est articulé autour de The Kiss d'Edison, qui était justement le plan de deux personnes s'embrassant à pleine bouche. Et d'ailleurs, il a un sentiment très profond qu'il recrée, je trouve, de l'obscénité du baiser à pleine bouche. Il a une manière de filmer les gens qui s'embrassent d'une manière qui est immédiatement obscène, en fait. Et c'est vrai que c'est la grande différence avec le teen movie. Le teen movie classique, on va dire grand public, parle beaucoup de sexualité, mais l'interrompt toujours, comme vous l'avez dit, par le comique avant qu'elle devienne gênante ou problématique. Et c'est pour ça que, paradoxalement, le teen movie est d'une certaine manière très puritain. Cela dit, je pense que Clark aussi est bizarrement puritain, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard.
Ah, mais il y a une dimension
puritanisme perverti dans ce film, qui doit peut-être beaucoup, pour le coup, à son scénariste, vous l'avez dit, c'est Harmony Korine. Oui. On connaît la légende, il veut préparer un film sur le skateboard, ça deviendra Ken Park beaucoup plus tard. Il traîne à Washington Square à New York, et là, il rencontre un jeune homme qui fait du skate avec ses copains, 19 ans. C'est Harmony Korine qui va raconter cette histoire, et il me semble que la dimension très, très noire, morbide du film, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme, donc vous l'avez dit, qui se vante de déflorer toutes sortes de jeunes filles parce que c'est sa manière de pratiquer le safe sex, sauf que lui a le sida et donne le sida à toutes ces jeunes filles. C'est une sorte de vampire qui erre dans New York. Ouais. Et là, il y a une dimension qui me semble très plus Harmony Korine que Larry Clark. Il y aura une sorte de remake peu carnavalesque de Kids. Ça sera Gummo plus tard, le premier film d'Harmony Korine.
Tout à fait. Je pense aussi, c'est vrai qu'il y a cette dimension, peut-être, je dirais plus directement provoque, qui vient de Korine et d'ailleurs que Larry Clark va retrouver lorsqu'il va coécrire Smell of Us avec Mathieu Landais, avec Scrib. C'est exactement le même schéma, et c'est un schéma, vous l'avez dit, qu'il n'était pas jeune homme au début et qui va évidemment le devenir de moins en moins, Larry Clark. La figure essentielle, en fait, c'est pas tant les jeunes chez Larry Clark, si on est précis, que la rencontre entre des corps jeunes et un regard de vieux monsieur qui s'assume de plus en plus comme vieux pervers. Et je pense que c'est cette rencontre-là qui est infiniment transgressive. Paradoxalement, il présente toujours... presque toujours les jeunes gens comme un univers absolument pur de beauté qui est pas souillé par le regard adulte, sauf que en même temps il y a un paradoxe immédiat qui est que son regard vient tout de suite souiller cet univers de pureté juvénile, et c'est quelque chose qu'on va retrouver du début à la fin chez Clark. Donc il y a mais c'est vrai qu'il y a pas cette dimension volontairement provoque qu'on trouve chez Harmony Korine.
I mean, you and Sid really been like parents to me and Rosie. So I guess you kind of got kids after all, even if it's not the way you expected, right?
Give me a break, kid. You think if I was going to adopt, I'd end up with a delinquent doper like you? I don't think so. Come on, I'm just fucking with you. Don't be so sensitive, will you? Don't worry about it. Everything's going to work out.
You think so?
Yeah, I do. Yeah. Send them over. First clients have arrived.
So what do I do?
Just hang there, look cool.
All right.
Okay.
Alors je vous vois tout interloqué, Adrienne Boutan, et c'est vrai qu'il y a peu de voix d'adultes dans les films de Larry Clark. Donc qui peut être cet adulte qui parle? C'est James Woods dans Another Day in Paradise. Alors il n'y avait pas beaucoup de parents dans Kids, hein, ils sont hors champ. On voit à peine à un moment une mère allaiter son enfant et le regard un peu graveleux d'un adolescent sur cette scène angélique. Ici nous sommes dans donc Another Day in Paradise, un couple de truands joué par James Woods et Melanie Griffiths adopte des jeunes gens, et dans une sorte de road movie, un grand classique des films de gangsters en fuite, vont tenter de recréer une sorte de cellule familiale, même si dans cet extrait, James Woods disait au jeune Bobby qu'il n'adopterait jamais un voyou comme lui. Alors, expérience étrange, parce que ça donne l'idée de ce qu'aurait pu faire Larry Clark s'il avait été réalisateur hollywoodien. Ouais. Après le succès de Kids, Miramax lui fait tourner un film avec des stars à Hollywood. Et ça se passe pas très bien.
Oui, en fait, je pense que dans ce film, Another Day in Paradise, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est effectivement son film le plus grand public, le plus mainstream, de très très loin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on sent qu'il n'est intéressé qu'au moment précis où les adultes désertent le champ et où il y a les adolescents qui sont là. C'est comme s'il y avait des petites greffes de films de Larry Clark incluses dans un schéma qui l'intéresse pas tellement. Je pense que d'ailleurs même le schéma du road movie l'intéresse pas tellement, parce que c'est plutôt un cinéaste de la chambre et de l'intérieur que de l'extérieur. Enfin, il y a des très beaux plans sur la nature, notamment dans les deux Marfa Girls. Mais je pense que ce qu'il aime quand même surtout filmer, c'est les intérieurs. Et du coup, le road movie, c'est pas du tout un truc qui marche pour lui, paradoxalement.
Oui, la fin est très curieuse de Another Day in Paradise. Ça doit être la seule fin ouverte, avec un peu d'espoir chez Larry Clark. Ouais. Hein, on est vraiment dans un schéma de grand territoire américain. Ouais. Les deux adolescents s'en vont et il y a la possibilité d'un ailleurs où éventuellement ça se passerait mieux. Ce qui n'est généralement pas le cas dans les films de Larry Clark.
Ouais. On l'a un petit peu peut-être aussi dans le tout dernier que personne n'a vu à peu près, hein, dans Marfa Girl 2. Il y a deux personnages qui s'en sortent un petit peu, hein, cette idée de partir, mais c'est vrai qu'en général ça finit mal et ça finit pas du tout par l'évasion. Et en tout cas, l'évasion, elle passe pas par la route. Je crois que c'est ça surtout la clé, c'est qu'il a pas tellement cet imaginaire de la route en fait, Larry Clark. C'est un urbain, un New-Yorkais plutôt, et pas un amoureux des grands espaces.
Alors, Larry Clark aime bien raconter sa vie, racontant à propos de Kids et puis des photographies qu'il faisait, que oui, moi aussi, je me droguais, tout ça. Larry Clark a fait de la prison aussi, il a connu le monde de la violence, et il a raconté à propos de Another Day in Paradise d'avoir voulu faire sur la violence la même chose qu'il avait faite avec le sexe dans Kids, c'est-à-dire la montrer sans tout l'apparat hollywoodien. Il faut que ce soit une violence dérangeante. Il dit que le spectateur doit faire les frais de la violence.
Oui, et avec ça, le problème, c'est qu'il se heurte aux apories qui traversent tous les cinéastes qui essayent de se démarquer dans le secteur indépendant américain, qui est qu'il est assez facile de se démarquer sur la représentation de la sexualité, qui est très très calibrée, dans un style, je dirais, softcore, 9 semaines et demie, Adrienne Lyne. Et d'ailleurs, il le fait très bien, Larry Clark. Je pense qu'on peut comprendre toute sa représentation de la sexualité comme du anti-Adrienne Lyne. Mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile parce que la violence, comme le dit la chercheuse Linda Williams, la violence est aussi américaine que la tarte aux pommes. Et du coup, en fait, des cinéastes qui expérimentent avec la violence, y compris la violence réaliste, il y en a déjà beaucoup, et au cœur même d'Hollywood. Et je pense que c'est pour ça que c'est beaucoup moins choquant et que c'est beaucoup moins efficace du point de vue de la démarcation, le travail de Larry Clark avec la violence. Ils sont beaucoup à travailler avec la violence, en fait. C'est pas quelque chose qui le singularise particulièrement. Il y a un truc intéressant aussi dans le dernier Marfa Girl 2, c'est la manière dont il joue un tout petit peu avec le gore. Et là encore, j'ai l'impression qu'il est pas du tout à l'aise avec le gore. C'est pas du tout quelque chose qu'il travaille. Ce qui l'intéresse quand même fondamentalement, c'est la sexualité. Just about raped Allie last time she came. He beats me. He's raped me before. The worst part is the way he picks on Marty. He treats him like a dog or a slave or something. Pissing me off so bad I can't stand it. So what are you gonna do, Lisa? I'm gonna kill him. That's some heavy shit. Yeah, it is. So how are you gonna do it? Oh. Hey, why are you guys like so serious? I'm gonna fix Bobby Kent's ass. Cool. Oh, oh shit.
Can we get that some napkins, please?
Yeah, I'll be
right. And a straw.
Okay.
So how are we gonna do it?
I was thinking I could drive by his house, like when he's in his yard or some shit, and shoot him down. Cops would think it's a gang thing.
Oh no, somebody'd see us, please.
You know what we could do? We could go into the guy's house while he's sleeping and stab the fucker in the neck. I brought my survival knife.
He's got a Doberman. The best way is just to shoot him.
How do we get a gun? My mom has one.
Petit meurtre entre amis, on aurait pu l'appeler comme ça, ce film Bully, Larry Clark en 2001. Et on entend ici le projet de meurtre. On discute très tranquillement du projet de tuer ce comment on appelle ça en français, un bully, un harceleur, une brute scolaire dont tout le monde va décider de faire la peau, y compris des gens qui ne le connaissent pas du tout. Donc on est encore dans du Larry Clark assez sombre. Qui vient d'un fait divers. Alors cette scène est connue aussi à cause de ce mouvement tournoyant. Larry Clark racontera qu'il n'avait que 45 minutes pour tourner la scène, donc il va décider de la filmer en un seul plan et en tournant comme ça. Et quand vous analysez cette scène, Adrienne Boutan, vous parlez du malaise, de la nausée volontaire que veut provoquer Larry Clark à ce moment-là.
Bah, c'est vrai qu'il y a un phénomène vertigineux, cette espèce de panoramique circulaire qui s'arrête pas du tout. Et qui, je pense, correspond à un désir profond de Larry Clark aussi. À ce moment-là, c'est le moment où ils se mettent d'accord sur la manière dont ils vont commettre ce meurtre. Et la caméra est exactement au centre du cercle. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très fondamental pour Larry Clark, se mettre à l'intérieur. Il est avec eux à ce moment-là. Il est parmi eux. Et on y revient toujours. C'est cette idée d'être infiltré, d'être dedans. Il est au cœur de l'endroit où ça se décide. D'ailleurs, par ailleurs, écoutant cette scène, je me dis que je pense à ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Il n'y a pas de violence au sens Il n'y a pas de violence marquante au sens de crâne qui explose et d'œil qui...
Violence graphique, on dirait.
Et voilà, de violence graphique, violence visuelle. Mais en fait, il y a une violence très très forte, qui est une violence symbolique et qui récupère notamment en s'emparant de ce sujet tabou par excellence, qui est l'association entre jeunes gens et armes à feu. Quand il a voulu adapter ce qui était, je crois, d'abord un livre adapté de ce fait divers, je crois qu'il a pas réussi à le financer aux États-Unis parce que, manque de chance, c'était juste après...
Columbine.
Juste après Columbine. Donc, et effectivement, ça, c'est une manière de se réapproprier une violence qui est inacceptable dans le mainstream. Pas en montrant davantage, pas sur le plan de l'explicite, mais en le croisant avec un thème qui est un thème inacceptable. Et puis, il y a une autre violence qui est très présente chez Larry Clark, et on l'entendait dans les dialogues là, c'est la violence sexuelle. Et c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup, en fait, le viol, et qu'il travaille aussi beaucoup dans Marfa Girl, notamment. Cette question du viol, elle est importante, et pour le coup, assez beaucoup plus taboue que la violence physique.
Le viol d'un côté, et la répression sexuelle de l'autre, parce que Larry Clark a volontiers raconté que ce bully, donc ce harceleur, est... selon lui, un homosexuel refoulé qui ne peut pas le dire à son père, qui organise des jeux un peu pervers avec ses amis pour pouvoir explorer cette dimension homosexuelle chez lui, et que la raison qui le rend violent, c'est d'abord la répression de la sexualité, ce qui est aussi une question qui va apparaître de manière récurrente dans ses films, soit que la sexualité soit exubérante, soit qu'on essaye de la refouler.
Oui, il y a très souvent, notamment, je pensais dans Bully, que c'est le plus manifeste, vous avez dit que les parents étaient souvent absents, mais il y a une autre figure qui revient en particulier dans Ken Park, d'ailleurs, on en parlera peut-être après, c'est la figure du père violent, dominateur, castrateur, et qui effectivement est répressif et qui interdit, et parce qu'il interdit la sexualité, celle-ci se mue en violence.
Eh bien, écoutons-le, ce père.
Listen, I don't want you to see that fucking thing anymore. You look like a fucking piece of shit on it. It's too loud, it disturbs the whole neighborhood, your mother hates...
I'm sick of this fucking shit!
I'm sick of your shit!
Fuck!
Fuck you! Who the fuck do you think you are? I don't want that fucking thing around here anymore. If I see a new one, I'll break the fucking thing too. If you want to play, I'll throw the ball with you or something.
Yeah, we'll throw the ball.
Let me get back here.
Come on, hit me again.
You want another one? How's that, sweet boy?
Okay, I'm going to the house now.
You don't want to play asshole with me, kid. You lose every time.
Ne joue pas au con avec moi, gamin, tu perds toujours. C'est le père de Claude, interprété par Wade Williams, qui frappe son fils parce qu'il ne veut pas qu'il fasse du skateboard. Tiens, on a enfin entendu un bruit de skate dans cette filmographie de Larry Clark, qui a commencé par son amour pour ça. Le skateboard est une importance capitale dans le cinéma et même dans la forme du cinéma de Larry Clark.
Oui, alors faut dire que la transgression absolue dans cette scène, c'est qu'il lui casse son skate. Le père commet le pire des crimes qu'on puisse commettre envers son fils. Bon, par ailleurs, le père est incestueux, mais là, il lui casse son skate, ce qui est, je pense, dans l'imaginaire de Larry Clark, presque aussi atroce que le quasi-viol auquel il va se livrer un peu après. Oui, la culture skate, c'est essentiel pour Clark d'abord, parce qu'encore une fois, c'est une subculture, c'est une culture avec ses codes, qui est pas une culture officielle, et donc il faut infiltrer. Donc c'est vraiment, il y a cette idée quasiment sociologique ou presque anthropologique chez Larry Clark, d'une part, et d'autre part, c'est un motif visuel très beau, absolument superbe. Larry Clark, il est fasciné par ces représentations des corps qui bougent, qui se déplacent. Il y a vraiment un travail avec la grâce, et d'ailleurs, c'est peut-être un des points sur lesquels il rejoint Gus Van Sant. Il y a aussi des très belles séquences de skate dans Gus Van Sant.
Gus Van Sant se souviendra de Ken Park quand il fera son paranoïde Park,
oui,
à lui. Hein. Il y a des croisements. D'ailleurs, Gus Van Sant, on n'a pas dit, a produit Kids. Il a été influencé auparavant par les photographies de Larry Clark pour faire Drugstore Cowboy. Et leur filmographie se croise sans arrêt. Sauf que, justement, on parlait tout à l'heure de Another Day in Paradise. Mm-hmm. Autant que Gus Van Sant arrive à faire son trou à Hollywood et avoir des périodes cinéastes hollywoodiens pur jus et des périodes très indépendantes, Larry Clark est trop indépendant, lui, pour ça.
Oui, je pense que les obsessions de Larry Clark sont pas du tout convertibles en quelque chose d'acceptable. Quand Gus Van Sant va au bout de ce qu'il a lui-même, et on arrive à quelque chose qui est proche de l'art expérimental, qui est donc pas forcément, grand public, mais qui est acceptable. Quand Larry Clark va vraiment au bout de lui-même, on arrive à quelque chose, vous l'avez dit au début, qui voisine au pornographique. Et ça, c'est évidemment pas intégrable dans l'esthétique mainstream, par définition.
Alors, ce qui est très passionnant dans Kent Park, qui est sans doute pour moi son plus beau film, le film qui me touche le plus, mais je dis le plus beau parce qu'il est aussi à l'image. Là, pour une fois, l'image de Larry Clark est très soignée, certainement parce que c'est pas lui qui l'a fait. C'est Ed Lachman, grand chef opérateur, qui co-signe le film. Ed Lachman, qui a travaillé avec Herzog, qui fait la photo l'anglais de Soderbergh, Virgin Suicides, de Sofia Coppola. Pourquoi est-ce que pour ce film-là, Larry Clark veut particulièrement soigner son image? Lui dira qu'il veut avoir un style visuel quasi hollywoodien pour que les gens regardent vraiment ce qui se passe et ne se disent pas, tiens, c'est un peu crasseux l'image, ça bouge un peu dans tous les sens. Et il y a une volonté de faire beau tout d'un coup.
Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis que la réponse est peut-être qu'il effectivement il veut. Ce qu'il veut éviter, c'est de faire crade, parce que ce qu'on reproche souvent aux images de la sexualité, ou plutôt, on va le dire autrement, ce qui permet de légitimer des images de la sexualité plus explicites que d'habitude, c'est justement une espèce de façade un peu glossy, comme on dit. Et c'est vrai que c'est un des films dans lesquels il est... Alors, c'est un des premiers films dans lesquels il va aussi loin dans la présentation de la sexualité. Il y a une scène qui d'ailleurs a fait l'affiche, cette scène de Cunnilingus, qui est très 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 marquante quand même.
C'est amusant parce que selon les pays, elle est recadrée pour qu'on ne voit pas les seins.
Oui.
Mais le Cunnilingus reste en gros plan.
C'est ça, mais c'est une figure qui revient beaucoup chez lui, il faut le dire d'ailleurs, parce que je pense que c'est la figure de l'intimité charnelle par excellence. Or, c'est justement l'intimité charnelle que le style hollywoodien, Adrian Lyne, essaye d'éviter. Et je pense que c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dans les deux sens, c'est-à-dire il va très très loin du point de vue du porno au sens de rencontre vérifiable entre deux corps, constatable, c'est-à-dire que c'est pas découpé par le montage, et en même temps cette scène-là c'est la scène qui est la plus travaillée sur le plan visuel, et je dirais qu'on peut même aller un peu plus loin et se dire, dans cette scène si marquante entre cette femme et cette femme mûre, on va dire, et puis cet adolescent, il y a deux choses qui sont travaillées énormément. Il y a effectivement l'image, une image très dorée, très lissée, très lisse en fait. Et aussi le corps de cette femme qui est un corps incroyablement aseptisé, qui en fait est un corps d'actrice porno, j'ai envie de dire, jusque dans son épilation. Et effectivement, c'est le film dans lequel, à mon avis, il essaie... Je ne sais pas s'il s'agit de contrebalancer le caractère explicite de la sexualité, ou bien d'interroger finalement... De poser la question, pourquoi est-ce que cette image serait plus acceptable qu'une image amateur et qu'un film amateur? Et évidemment, il y a toujours la question de la proximité du porno amateur quand on regarde Larry Clark.
Et il y a aussi une nouveauté, on pourrait dire, dans le cinéma de Larry Clark, annoncée un peu par un film qu'on découvrira pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai eu la chance de le voir en DVD à l'époque, un film de télévision, film fantastique, assez étonnant, très amusant et très fort aussi, qui s'appelle Teenage Caveman.
Formidable.
Les hommes des cavernes, adolescents des cavernes, on pourrait dire, où apparaît ce côté un peu primitif utopiste de Larry Clark, c'est-à-dire la dimension consolatoire, édénique du sexe, un moment où effectivement on peut survivre à ses parents en couchant ensemble, fût-ce dans une orgie. Il y a quelque chose qui n'est plus le trash, vraiment l'aspect crasseux de Kids. Il y a une dimension presque rêvée du sexe, et ça c'est assez nouveau chez Larry Clark.
Oui, alors d'abord je suis très contente que vous mentionniez ce film Teenage, que je trouve formidable, parce que en fait, il a été totalement mis de côté, sans doute, parce que c'est un film de genre, pour le coup, et pas considéré comme un film d'auteur, mais qui est quand même incroyable. Il reprend le casting de Ken Park, et puis il les met dans une espèce de système complètement délirant, qui d'ailleurs pousse à terme ses propres obsessions. C'est-à-dire que les adultes, ça devient vraiment des monstres, ça devient des espèces de figures terrifiantes. Mais alors, c'est vrai ce que vous dites, et je pense que c'était totalement mis de côté dans Kids, sans doute à cause d'Harmony Korine, je le pense aussi, mais c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans Ken Park, entre autres, cette alternance entre la sexualité comme obscénité et la sexualité au contraire comme pureté absolue et comme retour à un état édénique. Et là encore, je pense que ce qui est frappant, c'est que ce qui fait basculer de l'état édénique à l'obscénité, c'est la présence des adultes.
Ça, c'est intéressant, justement, parce que, en fait, je crois qu'il aimait beaucoup Ken Park, justement par l'importance de ce personnage adulte, et on a toujours critiqué le côté négatif des adultes ou des personnes âgées dans les cinémas de Larry Clark, alors que moi, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, là, je me rappelle, il y a même un passage dans un livre de Houellebecq, je crois que c'est Soumission, où il critique énormément Larry Clark. Pour lui, c'est ce qu'il y a de pire dans l'art cinématographique, parce qu'il est toujours du côté des adolescents et qu'effectivement, il s'éloigne des personnes adultes. Je crois qu'à la fin, il finit par dire « pas du tout comme Haneke et moi-même », ce qui est assez amusant. Mais je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, le fait que ce soit la faute des adultes. Et il y a beaucoup à dire sur la question, y compris apparemment sur son nouveau film, où on voit que c'est juste une évolution permanente. Déjà dans The Smell of Us, on avait un peu cette impression que c'est juste une succession permanente des corps en décadence, et qu'une fois que le corps n'a plus la grâce et la force de la jeunesse, forcément, il y a une espèce d'abandon envers la perversité.
Absolument, oui. Cette quête de la grâce et cette terreur du flétrissement du corps qui est omniprésente chez Larry Clark, c'est vrai.
Are you rich? How can you afford this?
My dad.
What does your dad do?
I don't know.
Cool.
He's always talking on his cell phone and like going golfing and stuff. That's about it. What about yours?
I don't have a dad.
Really? You've never met your dad?
No. I just got a brother and my mom.
Are you close to your mom and your brother?
What do you mean by close?
Like, I don't know, like, are you, like, close to them? Like, you talk to them about a lot of stuff or do family things?
No.
No.
We broke.
Are you close to those guys that you're with?
No, they're just my friends.
Why not?
Because I'm not gay.
That doesn't mean you're gay. You're close to your friends. Are they, like, are you guys, like, best friends?
No, we don't call each other best friends. We're all the same.
How so? How?
We're all the same.
How are you the same?
We're all got different things, but we the same. I can call each other best friends. Something. We're just friends.
Mais oui, Larry Clark sait être romantique. Belle rencontre à Beverly Hills entre une fille de riche, Jade, et un jeune garçon des ghettos du sud de Los Angeles, venu avec son skate visiter Beverly Hills. C'est Jonathan Velasquez. Et magnifique rencontre entre Larry Clark et Jonathan Velasquez, là encore sur un lieu de skate. Alors là, c'est un Larry Clark social qui nous avait échappé jusqu'à présent, opposant l'enfer supposé des ghettos et le paradis supposé de Beverly Hills, renversant tout, montrant que le paradis des uns peut être l'enfer des autres, avec ce côté très étonnant d'une première partie de film, 45 minutes, qui est presque une chronique de la vie à je sais pas si c'est South Central ou un autre ghetto de Los Angeles, ces jeunes gens qui font du skate, qui ont du mal à se lever, etc. Et puis tout d'un coup, on part dans les pics, dans la découverte du territoire dangereux de Beverly Hills. Vous nous disiez hors micro, Fernando Gonzo, que c'est votre Larry Clark préféré.
Oui, peut-être parce que, et on parlait de Gus Van Sant tout à l'heure, par comment il filme ses adolescents dans tous ses films, c'est-à-dire, là, j'ose un peu rentrer dans les territoires de teen movie. Moi, ce qui me gêne un peu souvent dans les teen movies habituels, c'est que un adolescent est représenté soit par un objectif, soit par une caractéristique. Parce qu'il veut coucher, parce qu'il est moche, parce qu'il il travaille trop, bref, peu importe. Alors que dans les films de Larry Clark, y compris dans celui-là, qui est le plus communautaire, on va dire, c'est une espèce de groupe des skaters latinos, donc il n'y a pas plus représentatif communautaire. En fait, ils sont juste filmés par ce qu'ils ont, leur corps, leur désir, son objectif. Et c'est là que je trouve le geste de grande beauté de Larry Clark, c'est d'assumer juste ses corps trop grands par ce qu'ils ont et ce qu'ils font. Et il y a un côté presque vide dans ces personnages. Et c'est là qui revient la tragédie, je trouve. C'est que, et c'est pour ça que la fiction est importante dans son cinéma, lui qui était photographe, c'est que même si on n'a pas d'objectif particulier, ce n'est juste nous-mêmes, il y a toujours des conséquences. Et c'est ça qui est quand même assez fascinant.
C'est là que je parlais de cinéaste moral. C'est le cinéaste de la conséquence, Larry Clark.
Ouais, pour moi, Wes Uprocker, c'est tout à fait juste, mais c'est aussi le cinéaste de l'utopie. Et ça montre bien précisément à quel point il est incroyablement peu intéressé par les classes sociales, en fait. C'est assez fulgurant, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est évident pour Wes Uprocker, et c'est aussi tout à fait évident pour, encore plus, sans doute, pour Smell of Us. On lui a suffisamment reproché d'être parti pour étudier des jeunes délinquants en France, comme il l'avait fait aux États-Unis.
Smell of Us, c'est donc son film français, hein, un film problématique, on y viendra peut-être tout à l'heure.
Sans doute, mais je suis tout à fait d'accord. C'est l'idée que, effectivement, dépasser le typage, le processus de typage des teen movies, c'est vrai que c'est tout à fait ce qu'il fait, ou alors basculer vers un autre typage qui serait l'adolescent, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est l'adolescent, pas le nerd, pas le... Il y a une autre catégorie de typologie qui veut dépasser, on l'entendait dans les dialogues, c'est il disait I'm not gay, et cette espèce de dénégation qui revient tout le temps, qui reviendra aussi dans Smell of Us, justement, c'est une grande question. D'ailleurs, on a envie de demander à Larry Clark, est-ce que c'est pas vous-même qui arrêtez pas de répéter ça, quoi, cette fascination pour les corps pubère plutôt masculin que féminin. Je crois qu'il est quand même, malgré tout, il y a une attirance très très forte pour le corps masculin. C'est quelque chose d'intéressant aussi, la manière dont il interroge cette espèce de porosité entre plusieurs identités sexuées, plusieurs identités genrées à l'intérieur d'un même corps, et surtout chez les jeunes garçons.
Et c'est là qu'on peut interroger aussi le fait que Larry Clark soit la grande rétrospective de ces journées cinématographiques dionysiennes qui s'appelle Rebel Rebel. Je le disais tout à l'heure, il y a rébellion peut-être, mais rébellion sans cause. Et c'est encore plus frappant dans What's Up Rockers. On reste à l'intérieur de sa communauté parce qu'on a un petit espace protégé. Le film n'est pas là pour dire allons mettre le feu à Beverly Hills. Il est plutôt là pour dire il y a des communautés différenciées. Il vaut mieux rester chacun chez soi, ce qui est un constat terrible dans l'Amérique d'aujourd'hui, Fernando Gonzo.
Oui, et que je crois qu'il fait d'une façon si honnête et avec autant de porosité et avec une telle complexité, je crois, par l'idée que vous évoquiez tout à l'heure de l'immersion. Et sur Wes Uprocker, c'est assez fascinant. C'est-à-dire que même aujourd'hui, le film, il date de 2008, c'est ça ?
2005.
Même aujourd'hui, il continue à fréquenter les personnages du film. Larry Clark, il voyage avec eux en tournée. Donc, c'est un film qui a été fait d'une vraie convivance avec ces personnages.
So you know, sex is just another way of communication. If people fucked more, there would be less war, less killing, less rape, all that shit. You know what I mean?
Yeah, I think so.
I mean, it's just like, if people did what they wanted to do, and as long as it didn't hurt anyone, there shouldn't be a problem. Does that make sense to you?
Yeah.
Smell's important.
Smell?
Yeah, like, the way a guy smells. I hate it when guys put on Axe, you know that deodorant spray? Don't ever use it.
Well, some expensive stuff actually helps.
Oh, I guess so. But, you know, it's important to be able to pick up on other people's pheromones. Like, that's how we know we're attracted to each other. You smell good. You know anything about the clit?
Just what they say on South Park.
All right, so
Le sexe est juste une forme de communication. Si on baisait plus, évidemment, il y aurait moins de guerres, moins de meurtres, moins de viols. C'est le discours de Martha Girl, la fille de Martha, qui ne sera jamais nommée dans le film, jouée par Drake Burnett, et qui explique au jeune Adam que quand il aura atteint l'âge de la maturité sexuelle, on dira, elle lui fera plein de choses. Alors, on est là dans le côté presque hippie de Larry Clark. On est dans cette communauté au fin fond du Texas, dans cette ville absurde qu'est Martha Girl, qui était juste une station de ravitaillement en eau des trains, je crois, au départ, au bord de la frontière. Et apparaît à la fois donc ce côté le sexe, c'est merveilleux, quel bonheur, quel paradis. Et puis cette question de la frontière qui tout d'un coup se matérialise chez Larry Clark. S'il aime les adolescents, c'est pour une raison de frontière, évidemment, entre l'enfance et l'âge adulte. Mais là, il rejoint une thématique très importante actuellement. Le film résonne encore plus depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, avec ce côté conte de fées. On a un jeune homme, parcours initiatique, des fées initiatrices, et puis un grand méchant loup qui se trouve être un agent de la police des frontières. Adrienne Boutan.
Oui, c'est vrai que, la question que pose cette séquence, et à laquelle je pense qu'on va avoir une réponse à la toute fin de Martha Girl, mais surtout dans Martha Girl 2, dont on parlera après, c'est la validité possible de cette espèce de morale peace and love, faites l'amour, pas la guerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose à quoi je pense que, d'un certain point de vue, Larry Clark croit, qui représente beaucoup. Et en même temps, il y a quelque chose qu'elle dit à ce moment-là, Martha Girl, donc je rappelle qu'elle doit avoir une 23, 24, et puis lui est mineur.
Beaucoup plus âgé que les personnages habituels de Larry Clark.
Et surtout, elle a donc atteint la maturité sexuelle, qui est quand même la clé, notamment aux États-Unis. Mais au moment où elle lui dit ça, il faudrait qu'il y ait moins de guerre, il y aurait moins de guerre si les gens faisaient plus l'amour, etc. Elle lui dit quand même, dès que tu seras, t'auras atteint la maturité sexuelle, et ce qu'elle lui dit en anglais est assez fin, elle lui dit quelque chose comme I'll fuck your brains off.
Je te ferai sortir les yeux de la tête en te faisant l'amour, traduirions-nous.
Ce qui est une formulation, c'est intéressant parce qu'elle l'a réintroduit, la violence, en fait. C'est-à-dire
d'ailleurs,
que
on la voit figurer dans Martha Girl 2, cette scène, sous forme de cauchemar,
sous forme
alors
de
qu'on ne la voit pas dans le premier.
Exactement. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, le dialogue trahit lui-même cette idée que la sexualité exclurait toute forme de violence. Il n'y a pas la sexualité douce d'un côté et puis la violence de l'autre. Et d'ailleurs, ils vont être peu à peu rattrapés par la violence, par le viol, progressivement. Il y a aussi évidemment la dimension d'éducation sexuelle qui est amusante parce que elle est aussi présente dans tous les teen movies classiques. Cette idée que tout d'un coup on apprend aux gens ce que c'est hilarant cette réplique. Est-ce que tu connais, tu sais quoi sur le clitoris? Uniquement ce qu'ils disent dans South Park. On pourrait dire que voilà, Larry Clark, les films de Larry Clark, c'est apprendre peut-être aux ados autre chose que ce qu'ils apprennent dans South Park, qui doit pas aller très très loin. Et puis cette question de la frontière, je dirais, c'est peut-être, il y a une question de la frontière, mais la question de l'identité aussi latino. Et là, Larry Clark, il a un positionnement compliqué, parce que je pense que lui-même, il est absolument fasciné par cette figure qui maintient comme une figure d'altérité. Ces jeunes gens, il les filme un peu comme Pasolini allait filmer des jeunes gens des classes populaires.
Ils sont les ragazzi de Larry Clark.
C'est ça, il y a une espèce de fascination sexuelle qui repose justement sur le fait qu'on les considère comme autres. Donc c'est très paradoxal, cette opposition entre ce discours, encore une fois, ouvert, on va dire libéral, de gauche, et puis en même temps, le fait qu'ils maintiennent par le fantasme ces personnages de latino dans leur altérité sexuellement excitante, fondamentale.
Alors c'est peut-être le film où où apparaît le plus la dimension duelle de Larry Clark. Vous avez écrit un article dessus dans Vertigo, Adrienne Boutan. C'est-à-dire que chaque fois qu'il risque de tomber un peu dans le mièvre, c'est le retour un peu du Larry Clark pervers. Et à l'inverse, chaque fois qu'il va un peu trop loin dans sa façon de filmer les entrecuisses, par exemple, tout d'un coup, on est dans des images qui évoquent presque les publicités pour une marque de jeans bien connue qu'on ne peut pas citer à l'antenne. Il y a sans arrêt ce balancement et ce qui fait le prix de Larry Clark. S'il était tout un ou tout autre, ça ne fonctionnerait pas.
Oui, balancement et contradiction aussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui fait son intérêt et aussi parfois ses limites. Le fait qu'il voisine la mièvrerie de temps à autre. Et il y a une manière de filmer. En fait, on revient toujours au point de vue du vieux monsieur. Et parfois, c'est le vieux pervers, et parfois, c'est le vieux gâteux. On peut dire ça comme ça, mais il y a un peu ces deux figures-là, quoi, qui sont à la fois éblouies et fascinées par ces corps.
Fernando Gonzo.
Après, je trouve que c'est assez cohérent avec toute sa méthode filmique ou sa façon de faire. Et j'ai l'impression toujours dans ces films que Larry Clark a presque besoin de soit cette violence verbale, sexuelle, le côté explicite, parce que ça crée une espèce de chaos qui lui permet de créer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que toujours dans ses films, qu'est-ce qu'il fait, c'est rééquilibrer. C'est-à-dire, il y a une espèce de bordel énorme qui s'est créé. Avec la caméra, elle va rééquilibrer. Il va le faire devenir un peu géométrique, un peu plus beau. Et puis, il essaye en fait de faire contrebalancer les poids. Et finalement, ça provoque des basculements comme ça dans le déroulement du film. Effectivement, on peut penser à un moment, comme vous venez d'écrire, tout à fait contradictoire, et où il semble se dire non, là je vais trop de ce côté. Et il y a un côté très intuitif, je pense.
Dans ce chaos productif, parfois, il est plus très productif. On se souvient de ce tournage très compliqué de ce film français, donc The Smell of Us, tourné avec les jeunes skaters du Trocadéro, enfin inspiré par eux au départ, et racontant plutôt une histoire de prostitution dans les quartiers chics de jeunes gens des classes assez chics aussi. Là, c'est le moment où le système Larry Clark grippe d'une certaine façon. Peut-être parce qu'il peut faire avec de jeunes Américains rencontrés dans les ghettos, ce qu'il ne peut pas faire avec la jeunesse dorée parisienne.
Oui, là, en fait, ce qui est tragique pour lui, c'est qu'il s'est retrouvé mis violemment dans son rôle de vieux con. C'est une chose de s'émerveiller sur les tendances rebelles des ados, mais quand ils veulent plus venir sur les tournages pour filmer, ça devient problématique. C'est drôle parce que dans Bully, il avait déjà des jeunes délinquants. Dans Bully, il y a un acteur qui s'est retrouvé en prison parce que je crois qu'il avait volé un bateau pendant le tournage. Sauf qu'à l'époque, ces acteurs-là ne se rébellaient pas contre lui, Larry Clark, qui était encore de leur côté. Et là, il a eu affaire à la rébellion contre lui en tant que figure d'autorité. Ce qui est drôle parce qu'il interprétait par ailleurs un vieux monsieur complètement méprisé, abjectifié, souillé dans le film lui-même. Mais c'est vrai qu'on arrive aux limites de la possibilité d'infiltrer en fait une jeunesse de l'intérieur.
Fernando Gonzo ?
Oui, non, il y a quelque chose qui est trop simple de pure évidence, c'est que cette figure de papy, soit pervers, soit autoritaire, forcément va arriver de plus en plus en cinéma parce que, c'est tout bête, mais lui il vieillit, pas ses personnages. Donc,
c'est le drame de Larry Clark.
Lloro por quererte, por amarte, cariñito. Lloro por quererte, por amarte, cariñito. Ay, mi vida. Ay, cariño. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Si lloro por quererte, por amarte, por besarte. Lloro por quererte, por amarte, por besarte. Ay, cariño. Ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariño.
Merci Adrien Boutan. On se quitte sur la voix et la guitare de Jonathan Velasquez, chantant à l'écran dans Marfa Girl 2, le nouveau film de Larry Clark, toujours inédit en salle en France. On l'attend impatiemment. Et puis pour ceux qui voudraient prolonger l'expérience vénéneuse des teen movies, on renvoie à votre livre du même nom, Adrien Boutan. C'est paru chez Vrin. Un autre portrait de l'adolescence à l'américaine, c'est le mythique Donnie Darko de Richard Kelly, plongé onirique et parfois cauchemardesque dans l'esprit tout à fait barré d'un jeune homme de 16 ans, introverti et émotionnel. Émotionnellement perturbé, accompagné qui plus est d'un lapin géant qu'il est le seul à voir et qui lui annonce la fin du monde sous peu. C'était en 2001, Donnie Darko ne s'en est jamais vraiment remis et le film est ressorti en version restaurée mercredi dernier. Beaucoup plus zen, 8 films de Kenji Mizoguchi, 8 chefs-d'œuvre des années 50 dont les incontournables Contes de la lune vague après la pluie ou l'impératrice Yang Kwai-fei seront enfin visibles à partir de mercredi prochain en copie restaurée. Oui, parce qu'un distributeur indélicat faisait pour l'instant circuler des copies dans un état des plus médiocres, dont il n'avait d'ailleurs même pas les droits. L'occasion donc enfin de contempler les films de Mizoguchi dans toute leur splendeur, à comparer avec ceux de son compatriote Ozu, dont 11 films ressortent eux aussi mercredi prochain en version tout aussi restaurée. On retourne nous aux États-Unis et plus précisément à Las Vegas, ville de tous les stupres et du Showgirls de Paul Verhoeven, qui plus de 20 ans après sa sortie houleuse et controversée n'a rien perdu de sa force corrosive.
Right, up to the ceiling.
Yeah?
Right.
This is Nomi.
Hey.
Okay. Nikki, Julie, Dina, and you know Gay.
How you doing?
They'll run you through it once, you just watch, and then we'll blend you in.
Have you eaten anything? No. Jack.
Yeah.
What do you want? Burger, fries, and soda.
Get us some brown rice, vegetables, and a bottle of Evian.
You got it.
You guys sign it up. No, Nomi, no. Come take a look at this first. Here we go.
Turn was that? Do a PK turn.
That's it. Okay, music!
Go! Ha! Go! Yo! Ha!
Higher. Not that high. Stay in sync. 1, 2, 3. Run! Thrust it! Thrust it! Thrust it! Thrust it! Come on, thrust it! Bah! Okay. That's enough. Thank you, ladies.
Good job.
Gay, work with honor turns. I'm worried about her balance.
All right. How long do you think it'll be before I can do the show?
You're starting tonight.
Tonight?
You'll be fine.
Showgirls, c'est l'histoire assez survitaminée, on l'a entendu dans cet extrait, de Nomi, porte-étendard d'une galerie de femmes fortes qui jalonne la filmographie du Hollandais violent, autant d'héroïnes qui composent avec une série de handicaps pour progressivement prendre la mesure de l'univers dans lequel elles évoluent. Je vous cite Axel Cadieux, journaliste et critique de cinéma à SoFilm. C'est dans l'introduction du livre collectif que vous avez dirigé, Paul Verhoeven Total Spectacle, un livre qui sortira très prochainement chez Playlist Society. C'est donc l'histoire de Nomi, jeune danseuse ambitieuse qui débarque à Las Vegas et qui gravira les échelons d'une société du spectacle violente et très corrompue dans une sorte de relecture hardcore du Eve de Mankiewicz, rivalité entre stars installées et jeunes débutantes comprises. Un film agonie à sa sortie par la critique américaine, aussi française d'ailleurs, pour sa vulgarité. Un échec total en salle, mais un succès en vidéo qui en a fait un film culte réhabilité très vite par des grands cinéastes comme Tarantino, Jarmusch, John Waters et même Jacques Rivette, qui considérait Showgirls en 2001 comme l'un des plus grands films américains de ces dernières années. Alors Axel Cadieux, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien écoutez, vous venez de le dire, il a été réhabilité par Rivette, il a été réhabilité par Tarantino, Jim Jarmusch. Il y a même eu un livre, à vrai dire, qui est sorti, qui s'appelle, au titre évocateur, Showgirls, it doesn't suck, et beaucoup d'autres personnes qui
vous
se sont exprimées.
Vous traduisez Showgirls, it doesn't suck, Showgirls, c'est pas si nul que ça, on pourrait dire.
On peut dire ça comme ça. Donc une réhabilitation progressive au fil de ces 20 années qui a été, je dirais, à la hauteur de la manière dont le film a été reçu il y a de ça donc 20 ans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un désastre absolu. Le film s'est complètement planté dans la dimension à la fois publique et critique. Il a rapporté deux fois moins d'argent que ce qu'il a coûté. Et puis surtout, le film est resté dans la légende puisque juste après la sortie, il a été nommé aux Razzie Awards, qui sont des awards qui récompensent les meilleurs films, les pires films, pardon.
C'est l'équivalent américain des Gérards, on dira.
Exactement. Et donc, il a reçu 7 prix, dont celui de pire réalisateur, pire film et pire actrice. Et Paul Verhoeven, grand partisan du fait de tendre l'autre joue, est resté dans la légende, puisqu'il a décidé d'aller sur scène récupérer les Razzie Awards, ce qui lui a valu évidemment une acclamation absolument dingue. Elizabeth Berkley, actrice que je trouve, moi, formidable dans le film, en a fait les frais, elle en fait des tonnes dans le film à la demande de Verhoeven. Il voulait des gestes très staccato, quelque chose de très excessif, et puis ça détruira totalement sa carrière naissante, elle ne s'en remettra jamais.
Ladies and gentlemen, live from Las Vegas, the one, the only, Andrew Carver!
to learn to give by giving. Give me a beatnik love affair. We'll watch the shooting stars go crazy. So what do you see? A definite maybe. Should we walk into the wind?
Walk into the wind.
Maybe fall when autumn falls. Ooh, let's walk into the wind. To learn to touch by touching. Touch me if you dare. We'll reach the end of the beginning.
Le film, vous l'avez dit, a été conspué à sa sortie, mais est-ce que c'était mérité ?
Moi, je dirais que les gens, en fait, à la sortie, sont tombés dans un piège. Showgirls est démesurément Las Vegas. Verhoeven le dit, il est plus Las Vegas que Las Vegas. Il est vulgaire, cliché. Il pousse au paroxysme jusqu'à la nausée, ce qui fait de Las Vegas une ville à la fois fascinante et repoussante. Showgirls, je dirais que c'est l'attrait du vice, du sale, du clinquant, des néons, de l'argent, de la coke et des putes. Le tout enrobé, je pense qu'on l'a pas assez dit, d'une mise en scène, d'une élégance et d'une précision extrême. C'est d'une grande beauté. C'est peut-être le film qui est le plus fin en termes de mise en scène dans la carrière de Verhoeven. C'est extrêmement stylisé et je dirais que c'est ce paradoxe qui a pu accroître l'incompréhension des spectateurs et des critiques. Verhoeven le dit aujourd'hui très nettement, les gens n'étaient pas prêts. C'était trop violent, c'était un miroir beaucoup trop frontal, sans phare, qui dépeignait une société qu'ils n'avaient pas envie de voir alors qu'ils y vivaient.
Alors le film est maintenant totalement réhabilité, ce que vous dites, presque tout le monde le pense. Est-ce que ça ne fait pas un peu écran aussi à ce qu'est ce film, Axel Cadieux ?
C'est une possibilité. Moi, je pense que le film a joui pendant très longtemps de sa réputation de film maudit. C'est-à-dire que tout le monde le voyait et les cinéphiles adorent ça. Un film qui est considéré comme extrêmement mauvais et ils le réhabilitent et ils se disent qu'en fait ils sont les seuls à avoir compris. Et ça joue souvent pour les films. Moi, ma crainte à titre personnel, c'est que désormais que Showgirls est considéré comme un chef-d'œuvre, et ben en fait les nouveaux cinéphiles, les jeunes, le considèrent et ben finalement comme quelque chose d'installer et n'est plus le même désir de réhabiliter et de le découvrir et de l'aimer.
Maybe fall when all
Merci Axel Cadieux. Showgirls de Paul Verhoeven est édité en Blu-ray et en DVD chez Pathé. Le livre que vous avez dirigé, Paul Verhoeven Total Spectacle, est lui édité chez Playlist Society. À la technique aujourd'hui, Showboy Jean Frédérics. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, notre franc-tireur estival sera Jean-François Stévenin en sa présence et accompagné de son ami, complice et monteur Yann Dedé. Il y aura aussi Charlotte Garçon pour nous parler de l'intégrale en DVD de la courte et riche œuvre de Jean Vigo. D'ici là, votre après-midi se poursuit sur France Culture. Dans quelques instants, c'est l'heure de Proust avec Antoine Compagnon.